Agathon Gwassa, bonjour.
Bonjour.
Une année après l'élection de 2020 qui a porté à la tête de l'État burundais le général Évariste Ndayishimiye, le pays est en train de sortir de son isolement. C'est aux yeux des autorités burundaises le signe que le pays a déjà tourné la page de la crise de 2015, c'est ce qu'ils disent. Quel est votre avis?
Mon avis est que la crise de 2015 perdure parce que la répression et la persécution de l'opposition battent toujours leur plein. L'enjeu étant que pour se maintenir au pouvoir, il faut entretenir une violence d'État.
À ce propos, justement, le président Ndayishimiye a engagé un dialogue politique avec l'Union européenne en vue de la levée des sanctions budgétaires qui ont été prises au plus fort de la crise. Qu'est-ce que vous attendez de ce dialogue?
Le dialogue avec l'Union européenne, oui, c'est à encourager, mais on se pose la question de savoir quel sera l'aboutissement lorsqu'il n'y a pas de dialogue entre les Burundais eux-mêmes. Nous avons peur que la résultante de ce dialogue entre l'Union européenne et le Burundi ne risque de devenir ou de soutenir un régime qui tord les cou à ses citoyens, alors que ça devrait être le contraire.
Alors, selon vous, en l'état, est-ce que l'Union européenne doit lever ou maintenir les sanctions contre le gouvernement du Burundi?
Si les sanctions ont été prises pour des raisons liées à la violation des droits de l'homme, que dire de la situation actuelle en la matière? Lorsque les disparitions sont toujours monnaie courante, les gens sont tués ici et là, comme si de rien n'était, et sans qu'il y ait justice pour les victimes. Donc, lever les sanctions ou ne pas les lever, c'est pas ça le problème. Le problème réel, c'est la situation qui peut conduire à des sanctions.
Le Burundi est également engagé dans une normalisation de ses relations avec le Rwanda. Qu'en pensez-vous?
Je trouve que c'est une bonne chose. Après tout, on a intérêt à ce qu'il y ait de bonnes relations entre les partenaires et surtout avec les voisins, parce que cela permet aux citoyens de s'épanouir.
Avec la RDC, le gouvernement burundais discute notamment de la lutte contre les groupes armés qui sont basés à l'est de ce pays. Est-ce que vous approuvez cette stratégie?
L'instabilité à l'est de la RDC, c'est une préoccupation pour tout le monde et ça constitue une bombe à retardement pour toute la sous-région. Les dirigeants devraient, en plus de penser à démanteler ou anéantir ces groupes-là, devraient davantage adopter une stratégie commune qui consisterait notamment à un dialogue franc entre les protagonistes.
Le Burundi a été classé pays le plus pauvre du monde en 2020 selon la Banque mondiale, des chiffres que le président Ndayishimiye a balayés d'une main en dénonçant une manipulation par les détracteurs du pays. Que lui répondez-vous?
Je dirais que si les chiffres placent le Burundi dernier, il faudrait les réfuter par des chiffres. Or, le général Ndayishimiye n'a pas du tout fourni de chiffres pour montrer comment son classement est plutôt une fantaisie. Je me dis que si le général Ndayishimiye pouvait se mettre dans la peau du citoyen lambda, eh bien, il aurait tourné la langue deux fois, trois fois, je ne sais pas combien de fois, avant de répondre à cette question. Et en fait, lui, il a tout. Il n'a aucun souci. Cependant, des milliers de Burundais, sinon des millions de Burundais, croupissent dans une misère abjecte. Donc, cette pauvreté dont on parle, elle est bel et bien là, elle est palpable.
L'une des exigences de l'Union européenne, c'est le respect des droits de l'homme. Est-ce que, selon vous, la situation a évolué dans le bon sens depuis une année que le général Évariste Ndayishimiye est au pouvoir?
Pas du tout. La situation n'a pas du tout évolué dans le bon sens et le général Ndayishimiye le sait très bien. Dans une lettre que lui a adressée la Ligue ITK, une Ligue des droits de l'homme, le 18 juin dernier, il a fait mention de 554 tués, dont 250 cadavres retrouvés ici et là, et enterrés à la va-vite sans enquête ni identification des victimes. De plus, Ndayishimiye, dans sa gestion de la chose publique, discrimine le parti CNR comme si on n'était pas des Burundais comme les autres. Je me dis donc que la situation n'a pas du tout évolué.
Interrogé sur les arrestations arbitraires qui viseraient les militants de votre parti, le CNL, Évariste Ndayishimiye a expliqué qu'il faut plutôt parler de criminels qui se cachent derrière les partis politiques. Quelle est votre réaction?
L'accès de criminels, non militants et sympathisants, ainsi que tous citoyens qui sont victimes des abus et qui disparaissent comme ça, cache très mal le sadisme et le cynisme de celui qui a tenu ces propos-là. Quand bien même le président est magistrat suprême de par la Constitution, il ne devrait pas oublier que tout citoyen, quand même, a droit à un procès équitable devant les juridictions compétentes. Or, tous ceux qui disparaissent ne comparaissent nulle part, ils sont arrêtés, qui, au grand jour, qui d'autres dans des circonstances obscures et par des personnes non habilitées et on ne les retrouve plus. Donc dire que ce sont des criminels alors que la culpabilité n'a pas été établie par une cour ou un tribunal, c'est quand même quelque chose de révoltant.
À ce propos, justement, un de nos journalistes lui a également posé la question sur ces cas de disparition forcée. Il a expliqué que ceux qui sont cités dans ces cas-là se retrouvent plutôt au Rwanda où ils ont fui.
Est-ce que le général Ndayishimiye peut nous indiquer l'adresse à laquelle on peut retrouver Lingomirakiza qui a été arrêté par les militaires du 212e bataillon le 9 courant? Est-ce qu'il peut nous dire quel crime Lingomirakiza avait commis? Est-ce qu'il peut nous indiquer ou indiquer aux membres des familles de Bukuru, Martin et compagnie, des ressortissants de la commune Kiganda et responsables du CNR qui ont été arrêtés à Moaro en septembre 2020 par Gérard Ndayisenga, alors responsable du service national de l'enseignement à Moaro? Je me dis donc que monsieur le général, quand même, va trop loin. Et essayer de simplifier une situation qui est plus que grave.
Le Burundi est également pointé du doigt pour un niveau de corruption très élevé. À ce propos, Evariste Ndayishimiye a déjà pris quelques mesures, des mesures qui ont été saluées. Mais la société civile s'est inquiétée du fait que ceux qui sont arrêtés pour corruption sont ensuite relâchés après avoir payé les sommes qu'on leur réclame dans des circonstances plutôt opaques. C'est ce que Ndayishimiye a confirmé sur RFI. Quel est votre avis?
Nous semblons plutôt assister à une scène où on avance d'un pas alors qu'on a recul de deux. Pourquoi est-ce que le général Ndayishimiye a cautionné la violation de la Constitution de la République du Burundi, notamment en ses articles 95 et 159 relatifs à la déclaration de patrimoine par les membres de l'exécutif et les membres des bureaux du Parlement lors de leur entrée en fonction? Lui-même n'a pas fait cette déclaration alors que c'est une exigence constitutionnelle et plus tard, il a dit que le patrimoine de tout un chacun est en secret et que ça n'avait aucun sens que les uns et les autres déclarent leur patrimoine. Je trouve que c'est quand même une aberration. C'est une exigence constitutionnelle. Il est le garant de la constitution et des lois burundaises. Pourquoi il est le premier à violer ça et dire maintenant qu'il va combattre la corruption? Comment est-ce qu'on va savoir que si tel ministre, la richesse qu'il a, c'est une richesse qu'il a acquis honnêtement ou pas?
Au Burundi, certains partis politiques commencent à fixer leurs yeux sur les législatives de 2025 et même à s'y préparer. Est-ce que vous êtes confiant sur leur préparation, leur déroulement? Est-ce que vous êtes confiant que tout va bien se passer?
On ne peut nullement avoir confiance en des élections qui sont préparées par un pouvoir comme le nôtre, qui chaque fois utilise la voie de la violence et de l'intolérance politique pour se garantir le maintien de son pouvoir. Donc, c'est ça qui inquiète en fait. Si des élections devraient être démocratiques, il y aurait d'abord des signes précurseurs de la tolérance et de la compréhension mutuelle pour qu'on soit en compétition en bonne et due forme et que ce soit les programmes politiques des uns et des autres qui gagnent et non pas la violence qui est devenue comme le cheval de bataille du pouvoir depuis 2005.
Agathon Gwasa, merci.
C'est moi qui vous remercie.